Là, nous sommes avec Aimée Langlade, qui a travaillé pendant de nombreuses années à l'Ifremer de la Trinité-sur-Mer, sur l'huître plate. Et donc, je te laisse te présenter, Aimée.
Écoute, je suis Aimé Langlade, je suis arrivé en 1974 à l'Ifremer de la Trinité et j'ai travaillé pendant, enfin j'étais en poste, disons pendant un peu plus de 40 ans, affecté à la Trinité-sur-Mer. Donc j'ai travaillé sur en particulier l'huître plate et les huîtres en général, que ce soit en technologie, en pathologie, en génétique. Je faisais l'intermédiaire entre guillemets entre les chercheurs qui me dirigeaient. Et puis les professionnels avec qui je travaillais.
Donc toi, tu es arrivé dans le contexte des mortalités massives,
Martelia.
Martelia et ensuite Bonamia.
Oui.
Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus?
Les premières marées, c'était des constats de mortalité d'huîtres plates sur estran à cause du Martelia, qui est un protozoaire très virulent sur, disons, tous les coquillages d'estran, beaucoup moins virulent en eau profonde. Donc c'est pour ça que une partie de l'élevage et du captage s'est déplacée des rivières, où il y avait énormément de captage sur tuile, sur l'eau profonde, donc l'eau profonde de Quiberon.
Vous avez décelé le Martelia donc dans les aberges via une
C'était
introduction
détecté dans les abers.
détecté.
Ensuite, ça s'est réparti dans toutes les zones d'élevage d'estran, puisqu'à l'époque, il y avait très peu d'élevage en eau profonde. Donc on n'a pas fait grand-chose, sauf que un ostréiculteur, alors je dis pas pour sauver la profession, a été d'accord pour acheter la totalité d'une essaim de captage sur tuile qui se faisait à l'époque sur le Pô et Penthièvre. Et donc ce monsieur semait intégralement ses huîtres sur Binic. Et donc ça faisait partie du plan de relance, c'était l'achat collectif. Nous, on a participé à des comptages. Tu avais des camions qui attendaient sous le pont de la Trinité et tu avais des agriculteurs qui amenaient leur sac de naissain et se faire payer au cul du camion, quoi, hein. Pour moi, le plan de relance Martelia, ça a été l'achat par un professionnel ou deux professionnels de tout le naissain du Morbihan qui a sauvé la profession, en fait, hein.
Donc c'est l'ouverture vers l'eau profonde.
L'ouverture à l'eau profonde avec l'achat de tout le naissain. Donc, il devait avoir des aides.
Et ça s'est fait aussi en baie de Quiberon, non?
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y avait même la section régionale a fait des semis de naissains pour, disons, relancer un peu les bancs naturels, quoi, hein. Les bancs naturels qui étaient entretenus, qui étaient dragués, qui étaient nettoyés, mais sur lesquels il y avait peu de captage parce que les huîtres qui étaient captées sur coque de moule au sol, c'était pas très, très, je dirais, prolifique, quoi, hein. Et c'est là que l'idée, je dirais, m'est venue, entre guillemets, pour faire quelque chose, puisqu'on a détecté très vite que le maximum de captage se situait au-dessus de 50 cm du sol jusqu'à 1,50 m. Et donc là est venue l'idée de faire des cadres sur lesquels on pouvait mettre des boudins en suspension dans des filets qui captaient de l'huître plate sans aucun souci, sans capter trop de parasites, c'est-à-dire des oursins, des étoiles de mer, des anomies, et ainsi de suite, quoi. C'était vraiment presque des huîtres plates pures, quoi. Et puis, malheureusement, quelques années plus tard, ce deuxième parasite est venu perturber les élevages en eau profonde, puisqu'il a été introduit sur la zone de Binic, qui était une zone d'élevage qui était très prolifique d'huîtres plates. Il y avait plusieurs très gros chantiers qui travaillaient sur Binic. Et puis, cette introduction de coquillages malheureux, on peut dire ça comme ça, à Binic, a dispersé le bonamia dans toute la Bretagne et tous les élevages d'huîtres plates. Je me souviendrai toujours, mon patron à l'époque à la Trinité, c'était Jacques Audouin, qui m'avait envoyé, parce que bon, j'étais le seul à connaître un peu ce qui se passait, sur Bénodet, sur la zone de Bénodet, pour voir. Et donc c'est là où j'ai eu du mal à trouver 18 vivantes sur un parc qui était gigantesque, intégralement semé en huîtres plates. Et quand je suis revenu, je lui ai dit, moi, pour moi, c'est catastrophique, c'est une parasito, c'est sûr. Et c'est de là que tout est parti, quoi. Et j'ai malheureusement eu très vite raison, quoi. Dès que ça a été diagnostiqué comme un parasite X, qui avait beaucoup de similitudes avec un certain parasite américain, mais je me souviens des batailles d'Henri Grisel à l'époque, puisque je peux le dire, qui s'était battu pour ça. Et qu'on n'a pas forcément suivi, ou qui n'a pas été forcément suivi par la profession. Alors qu'en fait, ça a été prouvé, déterminé ensuite par des collègues de CET qui travaillaient en pathologie des mollusques. Et ça a été reconfirmé par un chercheur de Montpellier à qui on a donné le nom, c'était un certain bon ami, et qu'on a donné le nom Bonamia. Voilà. Ensuite, on s'est orienté vers donc le plan de relance. On a essayé de trouver des solutions de site d'abord. Donc ça a été Cancale, puisque Binic était, je dirais, obsolète, hein, était cuit, quoi. Le plan de relance de Bonamia, c'était trouver une zone indemne pour pouvoir faire de l'élevage de façon rentable, entre guillemets. Et ça a été Cancale. C'était le seul site qui se prêtait à ça, avec le maintien de la baie de Quiberon comme zone initiale de captage. Et c'est resté comme ça, c'est-à-dire que la zone de Quiberon est restée le seul site de captage, et même les huîtres de Cancale revenaient se finir en baie de Quiberon. Et même pour réalimenter les bancs naturels de Quiberon, on a mis des huîtres de Cancale, à notre grand désespoir. Non, il y a eu plein d'essais de fait, hein, avec des huîtres étrangères, des huîtres d'autres provenances, ça n'a jamais, jamais rien donné, quoi. Il n'y avait vraiment que les huîtres indigènes qui résistaient au qui tenaient le choc. Alors que Bonamia est toujours là. Hein. On n'a pas trouvé de prophylaxie pour les parasites. Hein.
Mais c'est vrai qu'il est moins présent qu'il ne l'a
mais
été.
Mais il est beaucoup moins présent qu'il ne l'a été. Quoi. Parce qu'il n'y a plus d'élevage au sol à découvert et que tout s'est concentré sur des élevages en eau profonde à faible densité. Quoi. Et à faible densité, ça fonctionne très bien. Hein. Ben, on se sent très impuissant quand on voit le résultat. C'est-à-dire que c'est complètement déprimant d'avoir travaillé sur l'huître plate et puis d'avoir une certaine, un début de relance avec le Martellia, parce que les huîtres se parasitaient, mais ne mouraient pas instantanément, elles mouraient l'année suivante. Que là, le Bonamia, c'était une fois qu'elles sont contaminées, dans le mois ou les deux mois qui suivent, elles meurent. Hein. Donc ça a été très, très violent. Et de voir rebelote des mortalités aussi intensives que ça, ça a été ça a été le coup de grâce. Hein. Ça a vraiment été le coup de grâce. Les premières marées que j'ai faites, c'était pour compter des mortes. J'ai compté des mortes toute ma vie, quoi, en fait. Le seul regret que j'ai, c'est que la préfation n'ait jamais reconnu, si tu veux, le travail qui avait été fait par les collègues, que ça soit à la Trinité, à la Tremblade, à Brest, et ainsi de suite. À Argenton, on a vraiment œuvré, quoi, hein, pour que ça puisse s'améliorer. Et ça n'a jamais été réellement reconnu, en fait. Ça a fonctionné, mais ça a été complètement ignoré, quoi. Ça, c'est un regret, ça, par contre.
À une époque, on t'a demandé, donc c'est, je ne sais pas en quelle année exactement, on t'a demandé de travailler sur un plan de sélection sur l'huître plate, oui, pour relancer l'huître plate.
Si tu veux, quand Gabriel de Kergariou est arrivé en tant que chef de labo à la Trinité, il venait de la Tremblade, il avait donc travaillé en écloserie et en génétique, et il m'a demandé si je pouvais maintenir pendant quelques années, de façon isolée, des géniteurs d'huîtres plates, des jeunes huîtres plates, pour la sélection génétique que faisait la Tremblade. Et c'est donc moi, j'ai mis en place tout un système de casiers en filière qu'on suivait, parce que en tant que plongeur, j'avais cette possibilité de travailler en plongée. Donc on a travaillé en eau profonde sur ces bestioles qu'on a suivies pendant 2 fois 3 ans. Et qui se sont avérées tout à fait performantes. Hein.
Résistantes au Martellia, au Bonamia.
Oui, puisqu'en une sélection, en une seule sélection, on avait déjà de la résistance. Donc c'était intéressant qu'on aurait pu poursuivre. La sélection génétique plate s'est arrêtée complètement, du jour au lendemain, presque.
Et ça, c'était en quelle année?
Ça va être en 83. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté non seulement de travailler sur les géniteurs, et tout s'est concentré sur la triploïdie et l'huître creuse, et les maladies sur l'huître creuse. Donc c'était de Kergariou à l'époque, hein, Gabriel, qui m'a dit « Écoute, Aimé, tes huîtres, tu t'en débarrasses. » Je m'en suis débarrassé, mais pas comme certains ont pu l'imaginer. Ça me faisait trop mal au ventre d'avoir élevé ces bestioles presque une à une en casier pendant 6 ans. Et puis d'avoir à les détruire, de les mettre dans une poubelle. Faut être raisonnable quand même. Surtout qu'elles n'étaient pas parasitées, elles étaient parfaitement saines, quoi. Donc j'ai dit au moins, vous ferez quelque chose avec le milieu. C'était des huîtres magnifiques, absolument magnifiques.
Bon, je te pose une question qui, je connais la réponse, mais entre une huître creuse et une huître plate?
C'est autre chose, c'est un autre produit. Pour moi, l'huître creuse, c'est un autre produit. C'est pas pareil, quoi. L'huître plate, c'est top, quoi. C'est l'huître plate, il y a pas mieux, quoi. Pour moi, il y a pas mieux. On a oublié de dire aux gens qu'il fallait croquer dans une huître. Il fallait la mâcher et pas l'avaler. C'est tout bête, hein, mais ce petit goût de noisette, hein, c'est à cause de ça, hein. Quand tu croques une huître, t'as vraiment un petit goût derrière. Je suis content, j'ai un petit-fils qui mange mes huîtres plates.